RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/frenh.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'ambassadeur de l'humanité espère que l'Indonésie défende constamment la Palestine. Festival international de la fleur de Tomohon aura lieu en août 2018. Le Vietnam profite de la technologie pour améliorer l'industrie du tourisme. Les artisans de tissage Ulap Doyo sont choisis pour rejoindre New York Now. 18 mai suivent Tour de Lombok Mandalika. Les Moluques du Nord développent l'économie créative et touristique. Jérémy nous présente maintenant le journal complet. L'ambassadeur humanitaire international pour les musulmans palestiniens, Mahyeldi Ansarullah, espère que l'Indonésie est toujours à la pointe de la défense de la Palestine. À l'Université d'État de Padang, l'ouest de Sumatra, dimanche, lors de collecte des fonds pour les Palestiniens, il a dit que le problème de la Palestine n'était pas seulement une question de religion, mais aussi de l'humanité, et nous avons donc besoin d'une conscience pour aider les frères en Palestine. Mahyeldi Ansarullah, qui est aussi le maire de Padang, a été nommé l'ambassadeur international humanitaire pour les musulmans palestiniens le 10 février par l'Institut international Al-Aqsa de Sumatra Ouest, à savoir l'établissement d'enseignement au public sur l'État et des dons pour la mosquée Saint Al-Aqsa. Il a estimé qu'actuellement l'Indonésie soutenait fermement l'indépendance de la Palestine et conformément au mandat énoncé dans la Constitution de la République d'Indonésie. Il espère que les soins, l'aide et le soutien de l'Indonésie ne s'arrêteront pas jusqu'à ce que les Palestiniens soient libérés de la violation humanitaire, l'injustice et l'oppression. Le gouvernement de la ville de Tomohon, Sumatra du Nord, continue de finaliser les préparatifs pour le Festival international de la fleur de Tomohon qui aura lieu en août 2018. Le maire de Tomohon, M. Jimmy F. Eman à Tomohon, espère lundi que le ministère des Affaires étrangères pourra soutenir la mise en œuvre du festival. Au cours d'un dialogue avec le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie, M. A. M. Fahir, le gouvernement de la ville a révélé la volonté de tenir le 8e événement annuel. Selon lui, le ministère des Affaires étrangères est prêt à faciliter la présence des délégués ambassadeurs à inviter. Le ministère des Affaires étrangères a également apprécié le gouvernement de la ville qui est toujours le pionnier de progrès du tourisme dans le nord de Sulawesi. Selon le maire de Tomohon, la mise en œuvre du Festival international des fleurs Tomohon a un impact positif pour attirer les touristes locaux et étrangers visitent à Sulawesi du Nord, notamment à Tomohon. L'activité qui est devenue le calendrier fixe du ministère du Tourisme est en mesure de stimuler l'économie de la communauté locale, les hommes d'affaires et l'industrie hôtelière. Le gouvernement vietnamien estime que la tendance du tourisme qui utilise le système Internet ou en ligne peut grandement contribuer à la croissance de l'industrie touristique. Cela a été dit par le vice-président de l'Association du tourisme de Vietnam, Vu Thế Binh, à la clôture de Vietnam International Travel Mart 2018 à Hanoï dimanche. Cette activité a eu lieu du 29 mars au 1er avril, vise à tirer parti de la technologie pour améliorer la connectivité et une forte réponse du monde des affaires. Le ministère indonésien du tourisme compte sur cette industrie touristique nationale de la région spéciale de Yogyakarta et Bali, composée d'agences de voyage et hôteliers. Le pavillon indonésien a remporté le prix du top 10 des cabines impressionnantes parce qu'il a été en mesure de présenter des dessins attrayants et de présenter une variété d'attractions, y compris les meilleurs cafés d'Indonésie. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Les artisans du tissage Ulap Doyo sont choisis pour représenter l'Indonésie dans l'événement New York Now en août 2018. Ils ont été sélectionnés après l'équipe de curation américaine de l'industrie avec le consulat général indonésien ont effectué des recherches et de l'étude de 25 micro, petites et moyennes entreprises à Kalimantan Oriental. L'assistance de direction de l'équipe de développement économique du bureau représentant de la Banque d'Indonésie de l'Est de Kalimantan, Dirwanta Firsta, à Samarinda dimanche, a déclaré que la désignation des artisans tissés par Ulap Doyo, qui était formée par la Banque d'Indonésie du représentant de Kalimantan Oriental, était comme preuve de la production du tissage Ulap Doyo qui a rempli les critères déterminés par le comité organisateur de New York Now pour assister à l'exposition internationale. Selon lui, c'est une opportunité précieuse et un événement qui n'est pas facile, comme rapporté par l'Agence nationale des nouvelles de la radio Ulap Doyo. Le tissu typique de Kalimantan Est a été dessiné comme objet du patrimoine culturel national par le ministère de l'Éducation et de la Culture depuis 2013. Dans la vie quotidienne, ce tissu est largement utilisé pour diverses cérémonies traditionnelles, la robe de soirée de mariage jusqu'à la dot. Le chef du département du tourisme de l'Ouest de Nusa Tenggara, Lalu Muhammad Fauzal, a affirmé que 18 pays vont certainement suivre la course cycliste internationale Tour de Lombok Mandalika 2018 qui aura lieu à Lombok, l'Ouest de Nusa Tenggara, l'Indonésie, du 13 au 15 avril 2018. Comme rapporté par Antara, M. Lalu Muhammad Fauzal, lors du lancement de Tour de Lombok Mandalika 2018 à Mataram dimanche a déclaré que le Tour de Lombok Mandalika sera mis en œuvre en trois étapes de course, dont toutes passent les destinations touristiques à Lombok. Les trois étapes sont Kota Mandalika, Kota Mataram, qui a une distance environ 84,4 km. La deuxième étape, Mataram Sembalun, Lombok Est, avec la distance d'environ 172,4 km, et la troisième étape est un circuit à Mataram avec une distance de 110 km. Cependant, le représentant de l'Association indonésienne du sport de vélo, UNITA, a déclaré que 18 équipes de 18 pays qui participeraient à cette activité étaient la Malaisie, le Japon, l'Australie, le Kazakhstan et la Chine. Le vice-président du Conseil des représentants régionaux, M. Nono Sampono, a rappelé aux gens de Moluk du Nord de continuer à développer de nouveaux potentiels, y compris l'économie créative et le tourisme. Il a été déclaré par Nono Sampono à Ternate, au nord des Moluk, cité par Antara à travers un communiqué de presse reçu à Jakarta dimanche. Selon lui, la province des Moluk du Nord est une province archipelagique. Il est un peu difficile à atteindre en raison de sa forme géographique, mais les Moluques du Nord possèdent un secteur touristique intéressant et distinctif. Cette province a l'héritage de plusieurs sultanats. L'un d'entre eux est le sultanat de Ternate qui est maintenu jusqu'à présent. Le complexe du sultanat du nord des Moluques est une forme de tourisme culturel et de tourisme religieux et peut être un centre d'éducation culturelle. Le potentiel économique de la plantation d'épices a maintenant évolué vers le potentiel touristique. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Les commentaires, le point de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « L'interdiction de déposer un pré-procès pour un fugitif ». La Cour suprême est appréciée parce qu'elle a publié l'interdiction pour ceux sur la liste de recherche de personnes pour déposer un plainte avant le procès. Le circulaire de la Cour suprême numéro 1 l'année 2018 daté du 23 mars 2018 ferme la possibilité pour les fugitifs de déposer un pré-jugement. La lettre confirme également que si l'avocat d'un suspect fugitif dépose toujours une requête avant jugement, le juge ne l'accepte pas. Le suspect ne peut pas non plus intenter une action en justice concernant le verdict. Jusqu'à présent, les gens sont souvent très fâchés à cause de nombreux fugitifs, notamment des corrupteurs qui ont fui à l'étranger. Ils déposent un préjugement par l'intermédiaire de leur avocat ou leur famille. En conséquence, certains d'entre eux gagnent le procès. L'un d'entre eux, Sujiono Timan, a été reconnu coupable de la corruption dans le cadre de l'aide de la liquidité de la banque indonésienne qui a fait perdre 1,2 trillion rupiah à l'État. Il a fui quelques jours avant d'être condamné par la Cour suprême à un niveau de cessation qui l'a condamné à 15 ans de prison. Lors de son évasion, l'épouse de Timan a déposé une demande de révision judiciaire et a été accordé à la Cour suprême le 31 juillet 2013. Timan était libre sans qu'il ne se présente devant le tribunal pour déposer le pré-procès. Une révision ou abrégé PK est un recours juridique qui peut être pris par une personne condamnée ou personne sujette à une peine dans une affaire juridique contre un jugement qu'à une force juridique permanente dans le système judiciaire en Indonésie. La décision judiciaire qui est censée avoir force de la loi permanente est la décision du tribunal de district qui ne fait pas l'objet d'un appel. La décision de la haute cour n'a pas fait l'objet d'un recours ou la décision de cessation de la Cour suprême. La circulaire de la Cour suprême numéro 1 l'année 2018 qui interdit aux fugitifs de déposer une plainte avant le procès devrait être appréciée par tous les milieux. C'est une étape appropriée pour les efforts d'application de la loi. Un fugitif et exil pourrait déposer un pré-procès et ensuite il ou elle gagne. Et bien sûr, cela ne peut pas être toléré parce que cela va faire que l'intéressé fasse quoi que ce soit. Si cela est permis, il y aura inégalité et même injustice. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 2 avril 1946, la naissance de Hamengkubuwono X, Bendoro Raden Mas Heryuno Darpito Umyokono Sri Sultan Hamengkubuwono X est né à Yogyakarta le 2 avril 1946. Il était le roi de Sultanat de Yogyakarta depuis 1989 et le gouverneur de la région spéciale de Yogyakarta depuis 1998. Hamengkubuwono X est diplômé de la faculté de droit, l'université de Gajah Mada. Le couronnement de Hamengkubuwono X en tant que roi a eu lieu le 7 mars 1989. Il a participé activement à diverses organisations et occupé divers postes, entre autres le président de Kadinda Yogyakarta, président de Golkar de Yogyakarta, président de KONI Yogyakarta, président directeur de PT Punokawan engagé dans les services de construction, le président de PG Madukismo en juillet 1996 et a nommé en tant que chef d'équipe expert du gouverneur de Yogyakarta. En 2010, avec Surya Paloh, Sri Sultan Hamengkubuwono X a initié la création du Parti démocratique national. En 1998, il a été nommé gouverneur de Yogyakarta avec mandat 1998 jusqu'à 2003. Dans ce mandat, Hamengkubuwono X n'était pas accompagné du vice-gouverneur. En 2003, il a été rétabli en tant que gouverneur de la région spéciale de Yogyakarta pour la période 2003 jusqu'à 2008. Cette fois, il était accompagné du vice-gouverneur Paku Alam IX. Le 2 avril 1982, l'armée argentine envahissait les îles Malouines ou Falkland en anglais. Les îles Malouines sont un archipel de l'Atlantique Sud situé à 480 km des côtes de l'Argentine et à 940 km du nord de l'Antarctique. Elles forment un territoire britannique d'outre-mer. L'archipel est composé de deux îles principales telles que la Malouine Ouest et la Malouine Orientale, séparées par un large chenal, le détroit des Falkland, ainsi que de plus de 750 îles et îlots. Le Royaume-Uni contrôle cependant l'archipel à partir de 1833, tandis que l'Argentine revendique les îles Malouines ou par l'Argentine nommée les îles de Malvinas comme son territoire depuis l'indépendance en 1816. Le 2 avril 1982, sous la direction de la junte militaire argentine, Galtieri a fait l'agression aux îles de Malouines. La fin de la guerre était la victoire pour les Britanniques et expulsion de l'Argentine des îles de Malouines. Le 2 avril 2005, le pape Jean-Paul II est mort. Son vrai nom est Karol Józef Wojtyła, est un pape de Pologne. Il a fait de nombreuses visites à l'étranger au cours de la période du chef de catholique à travers le monde. De 1978 jusqu'à 2005, il a visité plus de 129 pays. Le pape Jean-Paul II était aussi le premier pape qui a visité une mosquée, prié dans la grande mosquée de Omeyyad à Damas, en Syrie, en 2010. Période Damascus officielle comme le pape Jean-Paul II est la plus longue dans l'histoire de la papauté au Vatican. Dans la période officielle en tant que chef des catholiques, il a fait la campagne contre le communisme et le nazisme, la réconciliation avec les religions, les valeurs et l'engagement à la civilisation. Le 2 avril 2005, le pape Jean-Paul II est mort. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord Mon Indonésie.
« Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie et le Bangladesh renforcent la coopération dans le secteur industriel ». L'Indonésie et le Bangladesh ont les excellentes relations bilatérales, notamment en termes de renforcement de la coopération dans le secteur industriel. Cela est visible de la valeur du commerce entre les deux pays. En 2014, la valeur atteint 1,38 milliards de dollars américains et à 1,65 milliards de dollars en 2017. Les principaux produits d'exportation d'Indonésie au Bangladesh sont l'huile de palme brute ou CPO, le train et le composant et le papier. Pendant ce temps, la plus grande importation de marchandises en provenance du Bangladesh est le fil. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Industrie Erlangga Hartarto lors de la célébration de la 47e fête de l'indépendance du Bangladesh à Jakarta lundi. À cette occasion, le ministre indonésien de l'Industrie Erlangga Hartarto, représentant le gouvernement indonésien, a apprécié le Bangladesh qui a confié PT Industrie du Train ou PT Inka pour soutenir le développement de la connectivité du Bangladesh. La compagnie de l'industrie ferroviaire envoie progressivement 400 wagons de train au Bangladesh. La coopération entre PT Inka avec le chemin de fer du Bangladesh dans l'achat des voitures de chemin de fer a été signée depuis 2017. Ce sera une étape importante de diverses améliorations dans la coopération entre les deux parties pour l'avenir. En outre, le ministre Erlangga a également déclaré que PT Japfa Confit Indonesia a le projet d'établir une nouvelle usine au Bangladesh qui se concentrera sur la production de produits d'alimentation animale. Cela indique l'étirement de l'industrie nationale qui est capable d'investir et de s'étendre à l'étranger, tout en montrant également sa compétitivité au niveau mondial. Il a déclaré qu'à l'avenir, une telle coopération viserait à créer des entreprises communes dans le domaine des machines et des composants de maintenance, ainsi que la coopération technique ou l'intensification des capacités de l'emploi au Bangladesh. Il estime que les opportunités de coopération entre les deux pays sont encore très larges et prometteuses, compte tenu de l'existence d'un énorme potentiel de croissance économique en Indonésie et au Bangladesh. Le ministre Erlangga Hartarto a également déclaré que l'Indonésie a un marché important et beaucoup de main-d'œuvre. Le gouvernement indonésien continue également de créer un climat propice à l'investissement et offre aux hommes d'affaires de gérer leurs affaires. Pendant ce temps, l'ambassadeur du Bangladesh en Indonésie, Azim Al-Kabir, a déclaré que le gouvernement bangladais était très heureux de s'associer avec l'Indonésie dans tous les domaines avec l'espoir que les relations bilatérales augmenteraient à l'avenir. Il a exprimé sa gratitude au président indonésien Joko Widodo qui s'est rendu au Bangladesh et a rencontré le premier ministre bangladais Sheikh Hasina. L'ambassadeur Azmal a également déclaré qu'en plus de tenir des réunions bilatérales, le président Joko Widodo a également rendu visite aux réfugiés Rohingyas. L'arrivée du président Joko Widodo à Cox Bazar a également coïncidé avec la fourniture de l'aide de l'Indonésie sous forme de nourriture et de médicaments. C'est retard, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'ambassadeur de l'humanité espère que l'Indonésie défende constamment la Palestine. Festival international de la fleur de Tomohon aura lieu en août 2018. Le Vietnam profite de la technologie pour améliorer l'industrie du tourisme. Les artisans de tissage Ulap Doyo sont choisis pour rejoindre New York Now. 18 mai, suivent Tour de Lombok, Mandalika. Les Moluques du Nord développent l'économie créative et touristique.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre que l'indonésien.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue au Magazine Culturel, un programme quotidien sur le tourisme, les arts, les alimentations et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous vous présentons la danse Tiban de Java Oriental. Restez à l'écoute. Chers auditeurs, l'Indonésie, qui se compose de différentes tribus et cultures, a un rituel pour appeler la pluie, comme par exemple à Java Est, en particulier à Trenggalek, Blitar, Kediri et Tulungagung. Les gens ont un rituel Tiban ou la danse de Tiban qui est censé être capable de faire tomber la pluie. Le mot Tiban vient de Tiba en javanais qui signifie tomber, l'émergence de quelque chose inattendu auparavant. À cet égard, Tiban indique à la pluie qui tombe soudainement du ciel. La danse est une danse folklorique de génération en génération qui fait partie de la culture des populations locales. La danse Tiban est une prière à Dieu pour appeler la pluie. Derrière le rituel de la danse, il y a un sens d'espoir, un message noble pour la préservation naturelle. La danse Tiban a été réalisée pour la première fois à l'ère du royaume Kediri, lorsque la rizière des villages a commencé à diminuer en raison de la longue saison sèche. Les gens considéraient cela comme une malédiction pour l'incrédulité et l'infidélité envers Dieu. Ensuite, demain où les chefs de village ont délibéré avec l'aîné pour obtenir des conseils et des opinions pour compenser la malédiction. Les villageois ont donné leur petit trésor à utiliser comme les conditions de la mise en œuvre de la cérémonie traditionnelle. Ensuite, ils communiquaient avec le pouvoir de supranatural et imploraient le pardon et continuaient à torturer et à bronzer sur le soleil. L'autotorture était en utilisant un fouet fait de bâtons de nervure médiane de feuilles de palmier. Cette procession rituelle est sous forme d'un fouet mutuel entre les participants du rituel. Serviteur, la danse de Tiban se compose de groupes et il est mené par un arbitre ou appelé landang. La danse est accompagnée de gamelan. La danse Tiban est toujours pratiquée jusqu'à présent, bien que la danse ait une fonction différente des médiaux religieux pour devenir un divertissement. Au fil du temps, la procession de danse Tiban se déroule non seulement sur le terrain mais également sur scène. Le gouvernement régional de Kediri a déterminé que le temps de mise en œuvre de la danse est de première suro dans le calendrier javani. Chers auditeurs, c'était notre programme, le magazine culturel pour aujourd'hui avec le titre « La danse Tiban de Java Oriental ». Merci de votre attention, à demain.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir, chers auditeurs. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit de vocabulaire indonésien et vous guide pour parler en bahasa Indonesia. Cette émission est une collaboration entre la Voix d'Indonésie, station de radiodiffusion à l'étranger avec l'Agence de développement et de renouvellement du langage du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est membre d'étiquette ou en français, on dit acheter un ticket. Ensuite, je vais vous donner un exemple de conversation en bahasa Indonesia dont le titre est membre d'étiquette ou en français, acheter un ticket. Penjaga loket. Punya KTP? Mira, KTP? Apa itu? Penjaga loket. Kartu tanda penduduk. Kartu identitas untuk warga negara Indonesia. Mira, oh saya tidak punya. Penjaga loket. Kalau begitu, loket wisatawan asing ada di sana. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui. C'est membre d'étiquette ou en français acheter un ticket. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez les répéter après moi. Wisatawan asing. Wisatawan asing. En français, les touristes étrangers. Carte d'identité. Carte d'identité, en français, la carte d'identité. KTP atau kartu tanda penduduk. KTP atau kartu tanda penduduk, en français. KTP ou carte d'identité. Apa itu? Apa itu? En français, qu'est-ce que c'est? Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. En français, indonésien. En bahasa Indonesia, quand vous ne savez pas la signification du mot dans la langue parlée ou à l'oral, vous pouvez demander comme Mira. Apa itu KTP? Apa itu KTP? Qui signifie qu'est-ce que c'est KTP? En autre exemple, si vous ne connaissez pas la signification du mot wisatawan asing, je répète, wisatawan asing, qui signifie les touristes étrangers, vous pouvez dire, apa itu wisatawan asing? Apa itu wisatawan asing? Qui signifie, qu'est-ce que c'est les touristes étrangers? Si vous ne savez pas aussi la signification du mot SIM ou surat izin mengemudi, SIM atau surat izin mengemudi, en français, permis de conduire. Vous pouvez demander apa itu SIM? Apa itu SIM? Qui signifie qu'est-ce que c'est SIM? Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation. Penjaga loket. Punya KTP? Punya KTP? Mira, KTP apa itu? KTP apa itu? Penjaga loket. Kartu tanda penduduk, kartu identitas untuk warga negara Indonesia. Kartu tanda penduduk, kartu identitas untuk warga negara Indonesia. Mira, oh, saya tidak punya. Oh, saya tidak punya. Penjaga loket. Kalau begitu, loket wisatawan asing ada di sana. Kalau begitu, loket wisatawan asing ada di sana. chers amis, voilà l'émission d'apprendre en l'indonésien d'aujourd'hui, dont le sujet est membre d'étiquette ou acheter un ticket. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. Pour un exercice, envoyez votre enregistrement vocal en basse indonésien à notre adresse email à voi@voinews.id. Il y aura un prix intéressant pour un expéditeur sélectionné. L'exercice est saluer d'abord et puis mentionner votre nom, votre pays, votre adresse et votre nourriture préférée. Par exemple, Selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Chers auditeurs, on se retrouve demain avec notre sujet intéressant. Merci beaucoup de votre attention et à demain. Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous les auditeurs de La Voix de l'Indonésie. Voici le magazine musical. Cette édition présenteront les chansons de Kroncong chantées par Toto Salmon. Pour commencer la rencontre d'aujourd'hui, écoutons une chanson de Kroncong intitulée Fata Morgana. Bonne écoute!
Manja menyambut sang surya.
Chers amis, Fata Morgana est souvent interprétée comme une réfraction de la lumière, donc il peut faire quelque chose qui n'existe pas comme s'il y en avait. Ce phénomène est habituellement dans les régions chaudes, y compris dans les déserts. La chanson intitulée Fata Morgana raconte du phénomène naturel de Fata Morgana. Cette chanson parle aussi de l'existence d'un magnifique mirage et a contribué à orner cet univers. C'est une chanson originale de Kronchong. Bien que cette chanson ne soit pas trop longue, mais elle apporte un message positif pour les amateurs de musique afin d'observer l'un des phénomènes de la nature, d'admirer et d'être reconnaissant pour la présence de Dieu. Bon, chers auditeurs, écoutons une autre chanson de Toto Salmon dont le titre est Dewi Murni.
Kembangkan sutra ungu melambai meriah rasa semerbak memenuhi angkasa beralih
Chers auditeurs, la chanson que vous venez d'écouter est une chanson originale de Kronchong, créée par Sariwono ou Ochin Nur Hasim. Elle parle de la beauté de la nature qui attend que la déesse prenne un bain dans le lac de Dieu. Cette chanson est comme la poésie dont les paroles sont belles. La voix de Toto Salmon, qui a un caractère fort, rend cette chanson plus belle à écouter. Toto Salmon est l'un des talentueux chanteurs de Kronchong de l'Indonésie. Les chansons sont immortalisées dans l'album intitulé « Album Emas Kronchong Toto Salmon ». Le chanteur vient de Karanganyar, Java Central, a été récompensé en 1998 par Anugerah Musik Indonesia pour la catégorie du meilleur album traditionnel de Kronchong avec l'album d'or. Toto Salmon est décédé à Jakarta le 30 avril 2012. Chers auditeurs, nous terminons notre rencontre aujourd'hui en écoutant une chanson intitulée « Segenggam Harapan » qui est chantée par Toto Salmon. Bonne écoute et à la prochaine!
Tertutup bawah
menjelang bagaikan punah harapan. Tiba datang seperti sinar pelita, kau remaja pembawa tayangan terang sampai kaki hari desa, pancarkan sinar budaya, budaya cipta prasa genggam harapanku, tekuk-kukuhkan hatimu, junjung tinggi budayamu, semoga abadi. Tiada menjelang bagaikan punah harapan. Tiba datang seperti genggam harapanku, tekuk-kukuhkan hatimu, junjung tinggi budayamu, semoga abadi.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Merpati kekasih
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta, 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @VOIINDONESIA ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.